Jésus de Nazareth, un titre simple pour le premier livre de Joseph Ratzinger publié au cours de son pontificat. Ce n'est pas un texte du magistère, précise le pape lui-même, mais le fruit d'une recherche personnelle du cardinal Ratzinger devenu pape. Il pourra donc être librement discuté et critiqué. Benoît XVI assure qu'il a consacré tous ses moments de liberté à sa rédaction. Ce livre est un ouvrage scientifique et spirituel, a indiqué pour sa part le bureau de presse du Saint-Siège. Et sa publication, prévue au printemps prochain, intervient alors que des dizaines d'ouvrages sont écrits chaque année sur la figure de Jésus. Dernière en date, un grand succès dans les librairies italiennes, Enquête sur Jésus, une enquête menée par un journaliste et un historien de la péninsule sur le Jésus historique. Dans la préface de son livre, le pape constate qu'un écart s'est justement creusé entre le Jésus historique et le Christ de la foi, un phénomène dramatique, dit-il, pour le christianisme, puisque c'est son point de référence qui perd toute consistance. Alors d'où vient ce phénomène? Le père Joseph-Marie Verlinde, moine et professeur à la Catho de Lyon, l'explique en partant de l'une des fondatrices du New Age, Alice Bailey.
Elle annonce clairement tout un programme dans lequel les naturalismes va remplacer les religions transcendantes. Et elle met dans le même sac le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans son programme, il y a un point qui nous intéresse, c'est la récupération de la figure de Jésus-Christ. Elle sait très bien qu'il y aura une confrontation inévitable au Christ, et l'affronter est toujours délicat, dit-elle. Il s'agit donc de le récupérer, soit en le ramenant à un initié, à un avatar, selon la tradition à laquelle on se réfère. Ça, c'est le côté négatif, je dirais, de cet engouement. Les théologies pluralistes que le cardinal Ratzinger dénonce vont un peu dans ce sens-là aussi. Lorsqu'un père panicard propose au christianisme de réduire ses prétentions, s'il veut subsister dans le troisième millénaire, et de s'aligner en quelque sorte sur les autres traditions, en considérant que toutes les traditions sont équivalentes, nous avons aussi cette idée de la récupération du christianisme en le nivelant. Il y a aussi une interprétation plus neutre. Il y a quelques années, nous avons publié un livre à la faculté de philosophie de l'Université de Lyon, où nous laissions parler les philosophes, disons, des temps modernes. Tous les philosophes se sont sentis obligés à un moment de leur cursus, leur itinéraire, de se situer par rapport à la personne du Christ. Quelque chose a changé dans notre humanité. Bien sûr, pour nous chrétiens, c'est évident, puisque nous avons là le sommet de l'histoire. Mais je veux dire, même pour un non-croyant, pour le dire dans un langage contemporain, Jésus est incontournable. Il faut se situer par rapport à cette proposition. Je dirais même au niveau d'une philosophie religieuse. Le christianisme est quand même l'unique religion qui nous présente un Dieu fait homme. Alors je dirais, troisième élément, un élément quand même positif, j'en veux pour preuve l'ouvrage du cardinal Ratzinger, c'est que l'esprit travaille le monde quand même comme un ferment dans la pâte, comme un feu qui couve, et je crois qu'il nous bouscule, il nous pousse sans cesse à nous reposer cette question que Jésus pose à ses disciples, « Et vous, que dites-vous pour vous, qui suis-je ?» Les réponses sont maladroites, mais je crois qu'il y a aussi toute cette quête de l'homme, cette quête du sens, dans laquelle on ne peut pas faire l'impasse de la proposition de Jésus-Christ.
Père Joseph-Marie Verlinde est l'auteur des Impostures antichrétiennes aux éditions La Renaissance. Il existe une pensée selon laquelle la nature divine du Christ a été façonnée longtemps après sa mort. Le Jésus des évangiles est celui qui a vraiment existé, précise pour sa part Benoît XVI. Le père Wojtek Girtich, théologien du pape, rappelle ce que nous savons de Jésus à travers ses textes.
Les évangiles ont été écrits un peu comme on fait des icônes pour la liturgie. Donc d'abord, il y avait la liturgie, la rencontre avec le Christ vivant, et puis une réflexion, on a essayé de prendre ensemble la mémoire, ce qui était connu, et les évangélistes ont écrit les quatre évangiles. Et le fait qu'il y a quelques détails qui ne sont pas les mêmes entre les évangiles, c'est la preuve que c'est authentique.
Le pape insiste bien sur le fait que le Christ des évangiles est le vrai Christ. Alors que nous disent les évangiles de ce Christ?
Jésus est très humain, et ça c'est une chose mystérieuse mais magnifique. Comment la divinité du Fils de Dieu, à travers l'incarnation, est devenue humain. Si on a pu penser d'une manière totalement humaine, on a pu imaginer un Dieu inhumain, qui est phénoménal, un Superman. Mais non, dans les évangiles, on voit l'humanité de Jésus, sa miséricorde. on voit la divinité qui est devenue humble. Et le Fils de Dieu est apparu dans un petit village qui a vécu, qui a travaillé avec des mains humaines, il a aimé avec un cœur humain, il a fait des choix avec une volonté humaine. La divinité est devenue visible à travers l'humanité de Jésus. Et ça s'est continué à travers l'Eucharistie. Et comme nous sommes vraiment humains et généreux, il y a quelque chose de la divinité qui passe à travers nos vies.
Est-ce que c'est pour ça que cette figure de Jésus intrigue tant et que parfois on peut vouloir la détruire par des écrits qui disent le contraire de ce que dit le pape ou les évangiles ?
J'accepte que la figure de Christ intrigue, interpelle tous, les croyants et les incroyants, parce qu'on voit dans les évangiles une personnalité complète, avec des émotions. C'est étrange, jamais ce n'est pas écrit qu'il a ri. Il a pleuré, mais il n'a pas ri. Mais peut-être qu'il a ri, mais ce n'est pas écrit directement. Mais à part de ça, on voit une humanité complète, généreuse, normale.
On voit aussi un Jésus qui demande l'aide du Père, qui se sent seul, abandonné et qui a besoin d'aide.
Parce que dès son enfance, il sait qu'il est le Fils envoyé par le Père. Donc il y a toujours des échos de la vie spirituelle de Jésus, de sa prière, de son rencontre avec le Père. Et ça nous interpelle. Comment cet Dieu est devenu si proche? Mais il est l'Emmanuel, il est parmi nous. On essaie de comprendre à l'intérieur de la foi, mais jamais on ne peut pas comprendre d'une manière absolue. Le philosophe Baruch Spinoza, il était étonné comment on peut dire que celui qui est universel peut devenir particulier. Comment Dieu qui a créé tout le cosmos peut être présent dans un moment de l'histoire, dans un lieu concret. C'est toujours un choc pour l'intelligence humaine.
Vous dites que Jésus n'a jamais ri, en tout cas ce n'est pas raconté. Est-ce qu'on peut se demander si Jésus avait de l'humour ?
Et certainement, il y avait la joie en Jésus. Quand les enfants sont venus chez lui, il a béni les enfants, il a mis ses mains sur lui. Et ça, dans la longue réflexion christologique dans l'Église, on a essayé d'abord de comprendre comment mettre ensemble les deux natures divines et humaines dans la personne de Christ. Puis il y avait aussi la question au 7e siècle, avec la volonté, est-ce qu'il y avait seulement une volonté divine, et donc est-ce que Jésus était réduit au niveau d'une certaine marionnette dans les mains de Dieu? Et l'Église a dit non, il y a deux volontés, il y a la volonté humaine, il y a la volonté divine. Puis on peut dire jusqu'à le Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, il a insisté sur la richesse de la vie affective de Jésus. Et il a réagi contre la thèse de Hilaire de Poitiers, qui avait une théorie de la vie affective de Jésus, qu'il y avait une certaine anesthésiologie de la vie affective. Et saint Thomas dit non, Jésus était complet, donc tout ce qui appartient à la nature affective d'un homme est présent en Jésus. Donc Jésus a un cœur qui aime, un cœur qui peut être triste. Et donc, dans notre rapport avec Jésus, aujourd'hui, envers son humanité glorifiée, tout ce qui appartient à l'humanité existe dans le Christ.
Nous remercions le père Girtisch, théologien du pape, et le père Joseph-Marie Verlinde.